France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Ça veut dire que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Comment devenir une bonne personne ? Telle est la question posée sur les planches par notre invité. Eh bien, je répondrai en écoutant de la musique classique, bien sûr. Ce que je fais au quotidien, ce qu'elle fait, enfin nous verrons à quelle fréquence. Beethoven ajouterait que seuls les cœurs purs font de la bonne soupe. Donc si je résume bien, écouter de la musique classique rendrait expert en velouté. Le velouté d'un son, d'un timbre, d'une musique qui peut d'ailleurs nous emporter parfois en pleine nature. Alors quand Beethoven transpose ses propres émotions en une symphonie pastorale, eh bien, je n'ai qu'à dire, en voilà une belle personne avec qui commencer. Bonjour Marina Rollman.
Bonjour Saskia Deville.
Mais bienvenue sur France Musique.
Merci.
Marina Rollman, humoriste que les auditeurs de France Inter connaissent bien aussi.
J'espère. Ouais.
Mais j'espère. Marina Rollman, symphonie pastorale, Beethoven ici jouée par l'orchestre de chambre de la radio bavaroise, Marie Hansons à la direction. Les premières mesures, éveil d'impressions agréables en arrivant à la campagne, c'est le titre de ce mouvement. C'est pas mal pour démarrer ça.
C'est ça, tout en douceur, c'est la Suisse, c'est les jolies collines, le vert, les prairies.
La douceur, c'est ça que vous évoque la musique classique ?
Pas toujours, mais en l'occurrence, effectivement, cette symphonie-là, ouais, il y a quelque chose de, je trouve, extrêmement apaisant. Enfin, peut-être même, on va vers du mielleux, ou je ne sais pas exactement quel reproche on pourrait lui faire, mais oui, effectivement, un apaisement immense.
Mielleux. Alors, vous avez été élevé par des parents publicitaires, vous avez vous-même bossé un temps, il y a un petit moment, dans la publicité. Qu'est-ce que cette musique ferait surgir en vous de à ce niveau-là ?
Ah bah là, on est sur une pub de lessive, hein. Là, très clairement, on est sur des gens qui reniflent leur linge
et
qui virevoltent avec des parfums peints des Landes.
Et puis, il y a aussi cette ode à la nature.
C'est ça, exactement. Oui, quelque chose de très paisible. Je pense que ça s'accorde assez bien avec les paysages suisses. C'est un peu cliché, mais c'est vrai que la Suisse, son système ferroviaire, la manière dont on la traverse, c'est quand même très ça, quoi. Il y a ce truc très pastoral, il y a ce truc très Ferdinand Hodler, ce genre de tableau, etc. Donc, effectivement, c'est une musique assez adaptée à cette nature-là.
Alors, je pense que nos auditrices, nos auditeurs l'avaient compris. Vous êtes née en Suisse, vous Absolument. Avez grandi à Genève. Comment avez-vous découvert la musique classique ? C'était quelque chose que vous écoutiez en famille ? Peut-être.
Moi, je viens d'une famille où tout le monde a fait minimum 15 ans de piano et moi-même, j'ai lamentablement fait difficilement 5 ans de solfège, puis très mal du piano, jusqu'à ce que je perde une de mes dents de lait pendant un cours et que donc je saigne sur le piano de ma professeure. Elle me dit bon, on va arrêter là, parce que ça devient dégueulasse. Et donc, beaucoup de pianistes dans ma famille. Mon grand-père maternel était pianiste de jazz et je suis allée beaucoup au concert classique avec ma grand-mère paternelle.
Un souvenir en particulier à partager
Typiquement, la symphonie pastorale, je pense qu'on l'a entendue pour la première fois ensemble en concert. Et c'est aussi ça qui m'a menée à faire de la danse classique. C'est venu par ce biais-là.
Thank you.
Franchement, il envoie.
Il envoie. Il envoie ce violoncelle, ce violoncelliste Bruno Philippe. Jérôme Ducrot au piano ici. Les premières mesures de ce troisième mouvement de la sonate pour violoncelle et piano en sol mineur. Opus 19 de Sergei Rachmaninov. Marina Rollman, vous m'avez demandé de choisir pour vous, eh bien, une œuvre que vous ne connaissiez pas, une œuvre pour violoncelle qui est, j'ai cru comprendre, votre instrument préféré.
Ouais, le violoncelle, vraiment, ça m'émeut, c'est terrible. Je pense que si j'ai des enfants un jour, ils seront forcés de faire médecine et de faire du violoncelle. Alors que
simplement,
c'est ennuyeux quand on est petit, quand on a 10 ans, de se trimballer avec ce violoncelle, d'aller à son
c'est
cours
lourd.
Par le bus. C'est très ennuyeux pour les parents, je pense. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est imbattable. Enfin, c'est l'instrument qui parle à mon cœur.
Et pourtant, vous n'en avez jamais joué, si je me trompe.
Non,
Après le piano, ça ne vous a pas travaillé.
Mes parents se sont dit, bon, on a ce piano en location à la maison, toi tu perds tes dents dessus, on va pas, c'est pas maintenant qu'on va acheter un violoncelle. Mais ouais, non, c'est magnifique.
Et je parle alors à la danseuse, vous avez fait des cours de danse classique, vous imagineriez danser là-dessus, sur ce mouvement.
Évidemment,
de sonate.
Un petit pas de deux magnifique, avec un long voile, un peu comme dans la scène Singing in the Rain, en studio aussi, Charisse a cette espèce de voile de 10 mètres qui flotte derrière elle. Oui, oui, il y a de quoi faire, bien sûr.
Il y a évidemment. De quoi faire. Je pense que vous avez passé beaucoup de temps chez vos grands-parents, qu'ils écoutaient justement beaucoup de comédies musicales.
Ouais, on en voyait beaucoup, on écoutait beaucoup de jazz et on voyait énormément. Moi, j'ai grandi effectivement avec les films de Gene Kelly, avec évidemment Singing in the Rain et d'autres. Et je pense que ça a vraiment créé un univers. Ben, j'ai un univers esthétique de vieux, hein, faut dire ce qui est. C'est ça, de grandir avec des chants.
Je ne dirais pas jusque-là. Cela dit, il y a le travail de la voix, évidemment. Évidemment,
bien
une
sûr.
Comédie musicale, c'est du chant.
Absolument.
C'est quelque chose aussi que vous avez testé peut-être un Mais jour alors, ou que vous aimeriez tester.
J'aimerais énormément. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait des cours, enfin même pas des cours, mais qui sont mis dans des chœurs, pas des chœurs religieux, des chœurs de jeunes qui se retrouvent dans des bars, et voilà exactement, et qui à la limite même chantent de la pop. Et ça a l'air d'être un exercice fascinant sur le plan physique, émotionnel. Ça a l'air merveilleux. Mais donc non, moi je chante quasiment tout le temps faux. Et j'ai cet entre-deux qui est compliqué où je ne peux pas m'amuser au karaoké. Parce que je chante pas assez mal pour que ce soit rigolo et je chante pas assez bien pour que ce soit chouette. Et je suis dans cet entre-deux de personnes qui fait de la scène professionnellement, donc j'essaye de faire bien. C'est gênant pour tout le monde. Donc le karaoké est une torture pour moi, mais pourtant je trouve ça beau.
Cela dit, vous partagez votre passion pour la culture et puis pour le Grand Théâtre de Genève aussi au grand public.
Bien sûr, il faut savoir se divertir. Parfois ça fait du bien de regarder des choses bêtes en mangeant une pizza médiocre, une main dans le slip. Ça nous arrive à tous, je juge pas. Même moi, j'ai pas l'air comme ça, mais... je suis comme vous. Mais il y a aussi des moments pour se faire attraper par un compositeur mort depuis des siècles, revu par une chef d'orchestre zinzin, porté par des interprètes extraordinaires, dans un décor sublime, et se dire quand c'est fini, waouh ! C'était pas reposant, mais j'ai vécu un truc, quoi. Parce qu'au fond, l'opéra, c'est de la culture. Et la culture, c'est pour tout le monde. Et les gens qui disent le contraire, bah, c'est eux dont il faut se méfier.
Un extrait de cette vidéo de lancement de saison, c'était l'an dernier pour le Grand Théâtre de Genève. Vous allez souvent à l'opéra, Marina Rollman?
Là, ça fait longtemps, je dois dire, je suis mauvaise élève, mais parce que étant moi-même en tournée, finalement, on a assez peu de place pour aller voir les autres jouer. La dernière fois que j'étais à l'opéra, je crois que c'était à Bastille, je suis allée voir du Donizetti, c'était super, c'était léger, merveilleux, très bien interprété. Mais non, là, j'y vais pas assez. Mais je me réjouis de 2022 qu'une fois que le spectacle sera fini, de pouvoir retourner voir les autres.
Effectivement. Alors moi, j'aimerais qu'on analyse quand même votre débit qui est rapide.
Oui, absolument.
On le
qui
sait.
N'est pas suisse.
Contre celui peut-être des chanteurs lyriques qui prennent parfois plusieurs secondes, minutes, j'exagère,
syllabe.
Pour une syllabe. Exactement. C'est à travailler, à prendre des leçons.
Mais c'est ça, c'est vrai, vous avez raison. On dit que dans la comédie, tout est dans le timing. Et donc peut-être que je bénéficierais d'un training lyrique, ou peut-être je décomposerais mieux mes vannes. Et j'aurais donc les mêmes droits finalement SACD avec beaucoup moins de mots. Peut-être qu'il y a un truc à
finalement, et peut-être un jour une date à l'Opéra Bastille.
Évidemment, bien sûr.
Écoutez, nous en lançons un appel aux chanteurs lyriques, aux chanteuses lyriques qui nous écoutent. Marina Rollman demande des cours.
Thank you. un extrait du troisième mouvement de ce concerto pour violon de Philippe Glass avec Gidon Kremer, l'orchestre philharmonique de Vienne, Christophe von Dornani à la direction. Votre choix musical, Marina Rollmann.
Un peu inattendu. Alors évidemment, avant de connaître ce concerto, je connaissais Philippe Glass. J'avais même vu des œuvres en vrai. Mais j'ai découvert ce concerto, le premier mouvement en particulier, dans un cours de pole dance. Voilà, parce que j'aime la rencontre des gens.
Qu'est-ce qu'on fait comme mouvement là-dessus ?
Eh ben, en fait, sur le premier mouvement, c'est beaucoup plus une complainte. Le violon est beaucoup plus mis en avant. Il y a un truc un peu une espèce d'élégie comme ça. Et en fait, c'était très beau de voir ces nanas dans cette pièce pas très éclairée avec la prof qui avait ses talons de stripteaseuse, vous savez, en plexi transparent comme ça, immense, des trucs de 20 cm et qui tournaient. C'était magnifique. Et donc j'ai vécu ce moment de grâce. Je me suis dit, mais en fait, ce concerto est sublime. Et j'étais contente de l'avoir découvert là, parce que je trouve que ça casse un peu les codes de l'idée de ce qu'on se fait d'une prof de pole dance.
Voilà. Mais en plus, c'est bien la preuve que la musique classique est partout. Transcente. Finalement, vous n'avez pas vraiment des goûts de vieux, Marina.
Non, exactement, c'est vrai, vous avez raison.
Est-ce que vous écoutez de la musique avant de monter sur scène ?
J'écoute de la musique, j'écoute du disco principalement. Je suis une femme simple, j'ai envie qu'on fasse la fête, j'ai besoin que Donna Summer me susurre des mots doux sur des rythmes endiablés. Et donc voilà, j'écoute des trucs
et
très dansants.
Et ce troisième mouvement, vous pourriez l'entendre aussi ?
Ah oui, alors mais ça, c'est on part à la conquête de quelque chose. Là, c'est le Stade de France. Là, c'est le jour où peut-être je fais du rugby, je sais pas, mais ouais, effectivement.
France Musique, Saskia Deville.
Marina Rollmann, on va écouter votre choix musical suivant, un extrait du Requiem de Mozart.
Fait jamais de mal, je dirais un moment.
On est bien d'accord. Les chœurs et orchestres de la radiodiffusion bavaroise. Sir Colin Davis à la direction, comme Futatis, extrait du Requiem de Mozart. Le choix musical de notre invité aujourd'hui, Marina Rollmann. Je vous ai pas choisi, par contre, au sein de ce Requiem, un extrait très planant, on est plutôt dans la...
Non, mais j'adore l'idée. C'est sublime. L'idée d'être assez ancré en soi pour dire ça va jouer à mon enterrement, c'est quand même, ça dit quelque chose, quoi. C'est beau.
Pas mal. Ouais, vous étiez très concentré pendant l'écoute de cet extrait.
Ouais, c'est magnifique. Moi, ça me met des frissons, évidemment. Hein. C'est un choix peut-être aisé, mais.
Mozart, qui devait certainement être une bonne personne.
Mozart, un mec sympa, je crois.
Ouais, je pense. Je pense. Avec beaucoup d'humour.
Ah ouais?
Ouais.
Ah.
Ça, vous ne saviez pas?
Non.
Je vais vous donner 2-3 bouquins à la sortie de ce studio. On va le partager. Ce qui m'a amusé. Alors. Marina Rollman, humoriste.
Absolument.
C'est que ici la mort ou alors la dépression, ça c'est pour le choix musical suivant, ont guidé vos choix musicaux, c'était conscient. Je fais référence au deuxième concerto pour piano de Rachmaninov qu'il a composé après 3 ans de dépression nerveuse et qui lui a permis justement d'en sortir la dépression comme source de créativité. Ça vous parle ?
Ah bah oui, moi complètement, j'en parle d'ailleurs un peu sur scène. Moi j'ai eu des épisodes dépressifs et je sais pas si j'en suis ravie, enfin je sais pas si ça a été une source de jaillissement pour moi, mais en tout cas l'idée qu'on puisse en sortir quelque chose de beau, ouais, c'est sublime. Et en même temps quelque chose de très fébrile, enfin ce concerto il est intranquille mais il est très beau, quoi.
Alors écoutons-le. Marina Rollman, si vous aviez continué le piano, vous auriez aimé jouer ce concerto?
J'aurais adoré, mais il faut des grandes mains pour jouer ce concerto. Et j'ai vraiment des particulièrement petites mains, donc je pense que je vis ça par procuration.
Ou alors c'est peut-être une excuse que vous cherchez.
C'est ça, c'est vrai. J'ai l'impression de ne pas être équipée anatomiquement.
Non, mais c'est vrai que c'est une œuvre extraordinaire. Ouais, c'est joué par Daniil Trifonov, l'orchestre de Philadelphie, Yannick Nézet-Séguin. On en écoutait ici les premières mesures du 3e mouvement. Pourquoi avoir choisi ce concerto-là, Marina Rollman?
Parce que la supposée maîtrise qu'il faut pour le jouer, enfin en tout cas il est un peu mythique sur le fait que c'est un morceau extrêmement difficile à exécuter, et je le trouve effectivement hyper agréable, et je trouve qu'il a des choses, enfin je trouve que justement il porte un peu des graines d'une ambiance un peu à la Gershwin, enfin je trouve qu'il pose les bases de ce que va devenir après cette musique au XXe siècle.
Mais la musique qui est toujours bien actuelle et partout, on le disait même dans des classes de pole dance, la musique
Absolument.
Classique, Marina Rollman. Vous êtes actuellement en tournée en France, en Belgique, en Suisse.
Absolument.
Et puis j'aimerais souligner ces dates. Les 16, 17, 18 décembre, vous serez à l'Olympia avec donc ce spectacle intitulé Un spectacle drôle.
Ben oui, parce que tout simplement. On est suisse, c'est laconique, comme ça on dit les choses très simplement.
Allez, droit dans le vif du sujet plutôt. Merci Marina Rollman d'être venue nous voir.
Merci
dans cette émission. J'étais ravie de vous recevoir. Merci aussi évidemment à toute l'équipe. Éric Plancien, Pauline Boisaubert, Marie Lepeintre et Guillaume Leplège. Nous allons pour terminer, Marina Rollman, partir à la conquête du Stade de France. C'est tout ce qu'on vous souhaite avec votre dernier choix musical. La Symphonie du Nouveau Monde d'Antonin Dvorak.
Qui a fait l'ouverture de Carnegie Hall. Et c'est fou d'y penser si vous avez un jour l'occasion d'aller dans cette salle, les gens qui nous écoutent. C'est fou
à New York.
D'imaginer qu'à la fin du 19e, effectivement, on sent l'euphorie de se dire « Waouh, tout est possible, tout est ouvert, c'est très beau ».
Andris Nelson, l'orchestre symphonique de la radiodiffusion bavaroise. Bonne journée, chères auditrices, chers auditeurs. Et Marina, à très bientôt.
À très vite.
réécouter sur francemusique.fr.